Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Les Voix de Service Magazine. Aujourd'hui, c'est une nouvelle voix. C'est Catherine Brunet qui est au micro. Hélène Bédard est partie pour un peu de congé, mais on sera avec vous pour vous parler de façon quotidienne, comme toujours le vendredi, de revues, magazines qui a attiré notre attention. Je ne suis pas seule en studio.
Mon bien Dieu. Non,
ben,
Catherine,
nous, Francine Forger, vous êtes avec moi.
Bonjour, Francine. Bonjour, Catherine. Vous allez bien ce matin?
Oui, ça va bien.
Bon.
De quoi allez-vous nous parler ce matin?
On va continuer le dossier sur les plantes. Je vous rassure, ça ne durera pas 6 mois.
Il est intéressant, le dossier.
Oui, je trouve, moi. Alors, il nous en reste encore pour quelques semaines. Et du côté techno, il y a beaucoup, beaucoup de choses. En fait, on se questionne toujours sur la présence en classe du téléphone intelligent. Les gamers féminines et aussi toutes sortes de gadgets qu'on a vus récemment à une grande foire de la technologie à Las Vegas.
À Las Vegas?
Oui.
À Montréal aussi, on a une foire technologique, mais je crois que c'est plus tard un peu dans l'année, c'est pas en ce moment.
Oui,
en
oui,
ce moment,
y en a.
C'est le salon de l'auto, donc oui. C'est autre chose, autre niveau de technologie.
Oui, et en ce moment, pas en ce moment, mais à Montréal, présentement, beaucoup de rencontres sur l'intelligence artificielle.
Oh, intéressant. Et moi, de mon côté, ben, je suis toujours dans la revue Caribou, la culture culinaire québécoise résonne. J'attaque la question de la permaculture aujourd'hui, ce matin, avec un article qui s'appelle « Réfléchir la nature ». Et je crois que ça va être une des dernières fois que je vais vous parler de Caribou. J'ai pas mal fait le tour de tous les articles intéressants. Donc, on vous revient dans quelques instants.
Alors, Catherine, je vais commencer.
Allez-y.
Ça vous va?
Allez-y, Francine.
Alors, dans Science et Vie, toujours le même numéro, décembre 2017, Jean-Baptiste Viréras, je rappelle l'auteur de cette série, de ce dossier sur l'intelligence des plantes. Alors, ce matin, on parle de leur mémoire. Il ne me semble pas plus choquant de parler de mémoire pour une plante que pour un ordinateur, avance Michel Tellier, professeur émérite de l'Université de Rouen, et un des pionniers de l'exploration de cette facette de la cognition végétale. Loin d'être une notion un peu abracadabrante, la mémoire des plantes apparaît essentielle à l'acclimatation des végétaux aux contraintes de l'environnement. L'idée ne s'est cependant pas imposée facilement. Quand, au début des années 1980, Michel Tellier a soumis à l'évaluation de ses confrères ses premiers travaux sur la question, les colonnes de certaines revues scientifiques se refermait parfois violemment. Je commençais alors à regretter d'avoir utilisé le terme même de mémoire. Mais par la suite, ça a prouvé que j'avais raison. Face à des menaces environnementales ou à des agresseurs récurrents, les plantes ont en effet tout intérêt à avoir de la mémoire. La preuve, se souvenir que l'eau commence à se faire rare permet au maïs de mieux s'armer contre la sécheresse. Se souvenir d'une agression passée par un pathogène permet à la tomate de se défendre plus rapidement lors d'une nouvelle attaque. Enfin, se souvenir du vent et du risque qu'il y a d'être déraciné sans ménagement conduit les peupliers à s'ancrer dans le sol plus solidement et à développer avec prudence leurs branchages. Et ce ne sont là que quelques exemples déjà démontrés. Cette mémoire n'est pas exactement du même ordre que la nôtre. À la différence de l'humain, explique Michel Tellier, ce qui est stocké chez les plantes s'apparente davantage à une réponse préétablie, une instruction en quelque sorte, qu'à une représentation élaborée du passé à l'image de nos souvenirs. Pour autant, ce mécanisme de mémorisation des plantes emprunte une des stratégies qui a été observée aussi chez nos neurones, la reprogrammation épigénétique. Cette reprogrammation agit en premier lieu sur la configuration spatiale et chimique de l'ADN au sein du noyau des cellules végétales. Nous savons à présent que chez les animaux, la reprogrammation épigénétique contribue tout autant à la mémoire que le renforcement des connexions synaptiques. Le découvrir aussi chez les plantes renforce son caractère universel, se réjouit le neuroscientifique David Glassman, de l'Université de Californie à Los Angeles. Le secret de la vernalisation. C'est chez l'arbalète, je vous rappelle que c'est une fleur de la famille de la moutarde, que ce mécanisme a été pour la première fois révélé en 2015. Une belle surprise, se rappelle Caroline Dean, biologiste cellulaire au John Innes Center de Norwich au Royaume-Uni, qui découvrit la mémoire du froid chez cette plante. À l'instar de nombreuses espèces d'intérêt agronomique, comme le blé par exemple, l'arbalète ne fleurit au printemps que si elle se souvient du passage de l'hiver. Les scientifiques appellent cela vernalisation. En clair, la plante se souvient durant plusieurs mois de l'arrivée et de la persistance du froid. Pour ce faire, lorsque la température commence à descendre en dessous de 5 degrés Celsius, un gène va être particulièrement pris pour cible au sein de chaque cellule, le gène FLC. Ce dernier code pour une hormone contrôlant la floraison de la petite plante et se montre particulièrement actif au printemps. La mémoire de l'arrivée de l'hiver va alors prendre la forme d'une modification chimique de la chromatine environnant ce gène et persister au sein de la plante jusqu'au printemps. Ce qui est remarquable, c'est que cette mémoire binaire du froid, qui s'enclenche durablement dans chaque cellule de la plante, indépendamment les unes des autres, va conduire à une mémoire globale reflétant et la durée et l'intensité de l'hiver, explique Caroline Dean. L'arrivée du printemps fait progressivement oublier l'hiver passé en réactivant le gène FLC, cellule après cellule. Mais ce processus d'effacement saisonnier de cette mémoire, à l'inverse, échappe encore aux chercheurs. Pour le moment, les recherches sur la mémoire des plantes restent très descriptives et nous sommes loin de comprendre toute la subtilité des mécanismes à l'œuvre, admet le biologiste cellulaire Mark Zander, qui étudie au Salk Institute en Californie les modifications épigénétiques chez l'arbalète. Mais c'est sûrement le mécanisme le plus efficace pour mémoriser des informations chez les plantes. Et Michel Tellier entrevoit même des applications. Une meilleure connaissance de ces processus pourrait à terme ouvrir de nouvelles voies en agronomie. C'était dans Science et Vie, décembre 2017, sur l'intelligence des plantes.
Alors, je poursuis avec un article de Caribou. C'est un reportage qui s'appelle « Réfléchir la nature ». C'est un texte de Julie Aubé et des illustrations de Mélanie Lambric, qui fait partie intégralement de l'article. Dès qu'on s'intéresse à la notion de design en agriculture durable, on aboutit inévitablement à la permaculture. Or, qu'est-ce que la permaculture au juste? Rencontre avec des Québécois qui sont devenus de véritables designers de forêts, de champs et de vergers nourriciers où la biodiversité et les écosystèmes sont favorisés. Jonathan Pinault, Alexandre Gilbert et Alexandre Guertin sont copropriétaires de l'entreprise Écomestible, basée à Sherbrooke et spécialisée dans la conception d'aménagements écologiques faits de plantes comestibles. Ils comptent parmi leurs clients la garderie maternelle Ibouge et Bilingo, en Estrie, où les enfants profitent d'un verger écologique dans lequel ils jouent, cueillent des fruits et enrichissent leur culture agroalimentaire. Ils ont aussi travaillé pour la ferme des Quatre Temps d'Hemingford, en Montérégie, un projet agricole où se côtoient les cultures maraîchères bio-intestives et les élevages en pâturage, qui s'est donné pour mission de devenir un modèle écologique et nourricier pour le Québec. Selon les jeunes entrepreneurs d'Écomestibles, la permaculture se situe à la frontière entre le design, l'écologie et l'agriculture. On ne peut pas faire d'agriculture intelligente si on ne l'a pas d'abord conçue. Et pour la concevoir, il faut recourir au design, lance Alexandre Guertin. Jean-François Lévesque est horticulteur, semencier bio et propriétaire de la pépinière des Jardins de l'Écoumène à Saint-Damien, dans la Naudière. Il résume ainsi la permaculture, Une démarche scientifique qui s'inspire de la nature pour créer des écosystèmes viables. C'est une forme d'écologie appliquée. On observe, on interprète et on essaie de reproduire les mécanismes de la nature qui favorisent les interactions, la biodiversité et la résilience. On crée des designs réfléchis et systémiques, où chaque élément a un, ou même plusieurs, rôles à jouer. Puis on cherche à attirer et à créer plutôt qu'à éliminer ou à éloigner. Par exemple, plutôt que dépendre des insecticides pour chasser les bestioles indésirables, on invite dans ces cultures des oiseaux, des batraciens et des insectes alliés qui vont s'en régaler. Plutôt que d'utiliser des engrais chimiques ou plantes des végétaux ayant la capacité de fixer l'azote dans le sol et de l'enrichir naturellement. Les exemples sont légion et les principes en datent pas d'hier. Bien qu'elle suscite un intérêt grandissant depuis quelques années, la permaculture est encore relativement marginale au Québec. Cela dit, plusieurs personnes en font sans le savoir, puisqu'il s'agit de savoir-faire millénaires qui ont été perdus avec l'industrialisation de l'agriculture, indique Stéphane Sopkiak, propriétaire des fermes Miracle, le plus grand verger permaculture de l'Est de l'Amérique du Nord, situé à Saint-Anicet, en Montérégie. Pensons entre autres aux trois plantes que les Autochtones qui pratiquaient déjà l'agriculture dans les basses terres du Saint-Laurent avant l'arrivée des Européens appelaient les trois sœurs. Maïs, courge et haricots étaient plantés ensemble parce que les haricots fixent l'azote, dont le maïs, qui leur sert à tuer ou plus friand, tandis que la courge sert, elle, de couvre-sol. Quand Stéphane Sopkiak a découvert les écrits de Bill Mollison à la fin des années 1970, il s'est dit « Enfin, quelqu'un a rassemblé tout ça dans un livre en chapeautant le tout de principes de design. » Originaire de Tasmanie, en Australie, Bill Mollison est reconnu comme le père de la permaculture, qu'il a développé avec David Holmgren. C'est lui qui a énoncé les trois principes éthiques qui en forment la base : prendre soin de la terre, prendre soin des gens, et partager les ressources entre tous les êtres humains, mais aussi avec la faune et la flore. En obtenant son diplôme de biologiste, Stéphane Sopkiak s'imaginait qu'il allait travailler près de la nature. Mais il a vite réalisé que pour une journée sur le terrain, il devait passer des semaines à l'ordinateur, souvent pour documenter des cas d'espèces en danger, entre autres les oiseaux. Je voulais contribuer à protéger la faune plutôt que constater des disparitions d'espèces, s'exclame celui dont le verger est visité par des gens de partout dans le monde. Il décide alors de poursuivre ses études à la maîtrise en architecture du paysage, en s'intéressant à la création d'habitats pour la faune. Puis, en lisant les écrits de naturalistes du 19e siècle, il découvre que les vergers mixtes de l'époque, où poussaient des pommiers et des poiriers et de saison et de conservation, constituaient les milieux les plus diversifiés pour la faune. Il y avait peu de fruits de chaque sorte, mais beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux et peu de maladies. Frappé par le contraste que formaient ces vergers mixtes avec le verger monocultural d'aujourd'hui, Stéphane Sopkiak s'est mis à rêver d'un verger diversifié qui pourrait servir d'habitat à une faune très riche. Ses stagiaires le taquinent souvent en disant « Dans le fond, tu as fait tout ça juste pour les oiseaux. » L'agriculteur ne le nie pas. Pour atteindre son objectif, il s'est d'abord tourné vers l'agriculture biologique avant d'aller, selon ses dires, au-delà du bio. Certes, aucun intrant chimique n'est utilisé dans son verger, mais il y a plus. Et ce plus, on va l'apprendre tout de suite après cette courte pause musicale. Je continue cet article qui s'adresse à la biodiversité et à la permaculture au Québec.
Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie, mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Je lui ai fait une phrase par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes un nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas.
Clopelgag, la fièvre des fleurs.
Je poursuis cet article concernant la biodiversité et la permaculture, un texte de Julie Aubé. D'abord, les arbres sont plantés en trio, un pommier, un poirier et un prunier, et un arbre fixateur d'azote. Ces derniers deviennent même des tuteurs pour d'autres fruits ou légumes, augmentant les récoltes et la biodiversité. Puis le verger est organisé en strates. Les arbres fruitiers composent la strate du haut, les arbustes occupent la strate du milieu, et les plantes herbacées ainsi que les fines herbes agissent comme un couvre-sol productif dans la strate du bas. L'ensemble est conçu de façon à ce que tout ce qui pousse dans une même rangée arrive à maturité en même temps pour optimiser l'efficacité au moment des récoltes. Qu'on ait une ferme, un verger ou un jardin dans sa cour, l'esprit est le même, aménagé en système de façon à ce que 1 plus 1 donne davantage que 2. C'est dans cet esprit que l'équipe d'Écomestibles a travaillé à mettre au point le design à la fois fonctionnel, écologique et esthétique de la ferme des Quatre Temps, où Caribou a rencontré les jeunes agriculteurs paysagistes. Par exemple, les haies brise-vents, qui séparent les parcelles de légumes, protègent les cultures et créent des microclimats qui leur sont favorables. Mais elles sont aussi composées de végétaux qui attirent les insectes, dont les parasitoïdes, des insectes qui parasitent d'autres insectes, qui combattent les ravageurs. D'autres végétaux qui composent ces haies sont sélectionnés pour offrir, été comme hiver, des petits fruits aux oiseaux. Ceux-ci, une fois attirés sur place, mangeront également leur lot d'insectes. Comme aux fermes Mirac et au jardin de l'Écoumène, les nichoirs sont omniprésents à la ferme des quatre temps, pour que les alliés, ailés, soient les bienvenus. Bien sûr, ils picoteront un peu les récoltes, mais ainsi, ils participent et respectent le principe du partage avec la faune et la flore. Quelques fruits, c'est peu cher payé pour éviter l'épandage d'insecticides. Le fondateur d'Écomestibles explique que si une culture optimisée sur le plan écologique connaît une certaine baisse de productivité, mais qu'elle diminue également les besoins en intrants chimiques, il y a une augmentation possible de la rentabilité. Sans oublier l'essentiel gain en résilience. Une ferme qui ne dépend pas de la pétrochimie va continuer de produire et saura faire face aux inévitables bouleversements économiques ou écologiques à venir. Les entrepreneurs soulignent tout de même qu'il est utopique de croire que le design va résoudre à lui seul tous les problèmes. Avoir une ferme demande beaucoup d'expertise. Pour en vivre, il faut produire, mais aussi être un bon gestionnaire et réussir à vendre ses produits. C'est pourquoi il est impératif, selon eux, de travailler à élaborer un design de mise en marché. En d'autres mots, de concevoir des solutions de mise en marché de proximité pour les aliments issus de l'agriculture durable. Exemple, circuits courts, modèles coopératifs, différents systèmes de membership, etc. Selon l'horticulteur, semencier et excellent vulgarisateur Jean-François Lévesque, l'utopie, c'est de croire que l'agriculture dépendante de la pétrochimie, qu'il qualifie d'artifice sans durabilité humaine ou environnementale, pourra continuer de nous nourrir. Mais je n'ai pas envie d'élaborer contre l'autre système. Les gens ont besoin d'étincelles. Je préfère inspirer et montrer que ça fonctionne. Mes cultures sont productives et rentables, et elles créent de la diversité. Ce n'est pas parce qu'on fait du design écologique qu'on ne tient pas compte de l'économie. L'art ne révèle pas seulement de la vue, de l'ouïe et du goût, croit Jean-François Lévesque, des Jardins de l'Écoumène, mais aussi de la disposition qu'on a, comme individu, à prendre soin de la vie. C'est la chose la plus humaine qu'on puisse faire, lance-t-il, les yeux pétillants, en ajoutant qu'on doit impérativement travailler à favoriser la biodiversité. Le modèle productiviste en agriculture a entraîné une standardisation des aliments, en misant essentiellement sur quelques races ou variétés productives et adaptées aux longues chaînes de distribution. On perd un héritage génétique que des générations avant nous ont sélectionné en fonction des réalités locales. C'est pourquoi, et pourtant, quand il existe un lien entre un aliment et les caractéristiques physiques et culturelles d'un lieu, qu'on peut commencer à parler de terroir. L'horticulteur semencier s'intéresse aussi aux produits forestiers non ligneux et il a créé un design de 3500 arbres et arbustes fruitiers qu'il a plantés au milieu forestier. Les forêts nourricières existent plutôt partout sur la planète et notre territoire vastement forestier recèle dans ce domaine un immense potentiel. D'autant plus que le design peut nous donner des outils et des stratégies pour aller au-delà des limites de nos zones de rusticité. Stéphane Sobillac abonde dans ce sens en soulignant qu'il y a des projets de permaculture et de forêts nourricières qui se développent jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean et jusqu'à la côte nord même. La vraie et seule limite se trouve bien souvent entre les deux oreilles, ajoute-t-il avec un clin d'œil. Et voilà, c'était un article de Caribou de Julie Aubé qui s'appelle « Réfléchir la nature ».
Alors, dans un tout autre domaine, le téléphone à l'école, alors comme toujours, ça suscite de nombreux débats. Confisquer ou pas le téléphone cellulaire, le recours judiciaire d'un élève de 15 ans de Saguenay qui soutient que confisquer les appareils mobiles dans les écoles pendant plusieurs heures est exagéré, relance la discussion chez les enseignants et démontre que les règlements sont variables d'une école à l'autre. Marie-Ève Maras nous en parle dans la presse plus du 20 janvier 2018. Un téléphone jusque dans les sous-vêtements. Comment savoir qu'un élève a pris son téléphone cellulaire dans un cours, même si c'est interdit? Pour Claude Whiting, professeur d'éducation physique dans une école secondaire de Montréal, les indices sautent aux yeux. Un tel appareil dans un soutien-gorge ou dans un caleçon, voilà de quoi gêner bien des mouvements. On le voit tout de suite, ils ne sont pas à l'aise pour bouger. Souvent, ils demandent pour aller boire de l'eau, pour aller aux toilettes. Ils vont sur Facebook ou voir leur texto. Il y a des élèves qui ont une certaine dépendance, dit-il. Anecdotique, c'est au contraire monnaie courante, dit l'enseignant qui compte 25 années d'expérience. Selon le code de vie de leur école, les élèves doivent laisser leur téléphone dans leur casier pendant leur cours d'éducation physique. Mais l'enseignant leur donne le privilège de le laisser dans une armoire verrouillée pendant le cours, puis de le reprendre à la sortie. Confisqué pendant 5 jours. Dans bien des commissions scolaires de la province, c'est le code de vie propre à chaque école qui dicte les règles concernant les appareils mobiles. Les règlements changent donc au gré des établissements. À la commission scolaire Marguerite Bourgeois, par exemple, on indique que le téléphone cellulaire peut être confisqué pour une durée de 24 heures lors d'une première offense. Un élève qui contrevient aux règles du Collège Saint-Jean-Vianney, établissement privé situé dans l'est de Montréal, sera privé de son téléphone cellulaire beaucoup plus longtemps. Dès le premier accroc au règlement, l'appareil est confisqué pendant 5 jours ouvrables. Les élèves ont le droit d'avoir leur cellulaire sur eux, mais on ne doit pas le voir ni l'entendre, dit Catherine Jaudoin, conseillère aux communications à ce collège. Le cellulaire n'a pas le monopole de la distraction. S'il voit ou entend un appareil mobile dans sa classe, Guillaume Couture doit le confisquer jusqu'à la fin de la journée en vertu des règles de l'école où il enseigne, située dans la région de Saint-Hyacinthe. Ce professeur de français au secondaire fait toutefois preuve de souplesse. « Je ne veux pas te voir en train de jouer à un jeu sur ton téléphone ou en train de texter. Mais j'ai déjà eu une élève qui l'avait mis sur son bureau. Je lui ai simplement dit de le ranger, dit-il. » La technologie fait partie de la vie des élèves et il faut vivre avec, poursuit Guillaume Couture. « Je veux montrer ce qu'on peut faire avec un cellulaire. ça ne sert pas juste à envoyer des SMS et à aller sur les réseaux sociaux. Il est temps que l'école arrive en 2018. Un avis partagé par Patrice Bégin, je m'excuse, lui aussi enseignant de français au secondaire. Interdire complètement le téléphone cellulaire à l'école, c'est perdre la bataille, dit-il. Il arrive à Patrice Bégin de laisser les élèves utiliser leur appareil mobile en classe de manière ponctuelle. Il croit qu'il est du devoir de l'école de leur montrer à bien utiliser ces appareils. Pour moi, ça va bien, ça fait partie de la gestion de classe. Quand c'est un examen, c'est clair pour mes élèves que je ne veux pas voir ou entendre un téléphone. Bien entendu, il arrive que des élèves qui doivent accéder à leur téléphone à des fins éducatives l'utilisent pour d'autres choses. Mais ces mêmes élèves peuvent très bien parler de leur fin de semaine plutôt que de faire le travail en équipe qui leur est demandé. Le cellulaire n'a pas le monopole de la distraction, observe Patrice Bégin. Carte blanche aux enseignants. Alors, dans certaines commissions scolaires, comme par exemple de la Rivière-du-Nord, il n'y a pas de consigne qui brime l'utilisation des cellulaires, dit Nadine Brochu, conseillère en communication. Si un enseignant juge que de mettre de la musique ne dérange pas l'apprentissage ou que ça ne nuit pas aux activités pédagogiques de la classe, c'est une utilisation qui est à la discrétion des enseignants, dit-elle. Alors, le débat sur le téléphone intelligent à l'école, ça a commencé quand même il y a un certain temps. Ce n'est pas prêt de se terminer si on en croit ce texte dans la presse plus du 20 janvier.
On vous revient tout de suite après la pause pour les Voix de service magazine du vendredi.
Tous les hommes de la terre l'auront sur le bout de la langue.
Robitaille, mais non, c'est Damien Robitaille, la chanson « Mon nom ».
On est de retour pour les Voix de service magazine. Vous êtes toujours en compagnie de Catherine et Francine. Je continue avec le magazine Caribou Culture culinaire québécoise avec un reportage sur le métier des créateurs de saveurs. Ces gens, oui, qui décident des saveurs artificielles si on est vraiment dans un goût de fraise ou de framboise. Article très intéressant de Brit Pochet. C'est en entrant dans le bâtiment que je le perçois. Un petit quelque chose titille ma mémoire sans que j'arrive à le décrypter immédiatement. C'est rond et ça réveille la pointe de mon nez. Ça prend de l'ampleur progressivement, puis ça voyage jusqu'au fond de mes narines, tout près de la gorge. C'est salé aussi. Pourtant, on ne sent pas le salé, on le goûte. Avec la langue plutôt qu'avec le nez. Et pas un seul grain de sel sur la mienne cet après-midi-là. L'odeur réconfortante ouvre soudain une fenêtre dans ma mémoire. Des petites pâtes recourbées que ma grand-mère faisait cuire avec un cube de bouillon de poulet. Karine Tétrault, directrice marketing chez Kerry, Ingrédients et Arômes, une multinationale située à Granby et spécialisée en création de saveurs, m'accueille. « Ici, ça sent toujours quelque chose, » dit-elle. « Nous passons une porte et à nouveau, mon nez me parle. La fragrance est plus évidente, café aromatisé à la noisette. Je regarde autour de moi, l'odeur est forte, la machine à café ne doit pas être bien loin. Pourtant, rien. C'est une autre saveur produite aujourd'hui à l'usine qui m'a donné cette illusion. » Karine Tétrault m'entraîne dans une pièce où mon odorat ne sera pas trop perturbé. Je suis dans cet antre aux mille odeurs pour mieux comprendre comment on conçoit des saveurs. Nos outils de travail sont notre nez et notre bouche, explique Manuela Chevalier-Ruffini, aromaticienne et directrice du secteur recherche et développement de Kerry, qui nous a rejointes. Notre perception du goût se joue en effet à plusieurs endroits. Grâce à ses papilles gustatives, la bouche perçoit 5 goûts fondamentaux, le sucré, l'amer, l'acide, le salé et l'umami, ce petit goût de revenez-y caractéristique du glutamate monosodique. Pas besoin de notre nez pour les identifier. Mais ce dernier est un acteur clé dans la perception des saveurs. Avant de croquer une darée, on s'enivre de son odeur. Une fois que l'aliment est dans la bouche, notre langue et nos mâchoires l'écrasent, libérant des saveurs qui vont titiller nos papilles gustatives, mais aussi remonter dans le nez par l'arrière du palais. L'expérience en bouche, donc le goût de l'aliment, est une combinaison de ce que perçoit notre nez, notre bouche et notre cerveau. Ne nous leurrons pas, nos neurones sont bien les maîtres d'œuvre de tout ceci, entre autres ceux qui sont associés à la mémoire olfactive. Ce qui est fascinant chez les aromaticiens, les créateurs de saveurs professionnelles, c'est leur mémoire, confirme Karine Tétrault. Ils peuvent recréer tout ce qu'ils emmagasinent. Le système olfactif a un potentiel énorme, poursuit Manuela Chevalier-Ruffini. À partir de souvenirs d'un goût, celui d'un cocktail par exemple, la mémoire olfactive permet d'identifier chaque composant du mélange sans en avoir vu la recette. La manière dont chacun organise sa mémoire dicte la rapidité et la précision avec laquelle il associe une odeur donnée à un produit ou à une molécule particulière. Et de redéconstruire un cocktail en identifiant un à un ses ingrédients et ses arômes pour mieux le reconstruire ensuite, il est possible de déconstruire une framboise pour créer un nouvel arôme de framboise. Nous avons des centaines de framboises, signale Manuela Chevalier-Ruffini. C'est logique, on mange rarement un arôme tout seul, qu'il soit de framboise ou de poulet. On le consomme dans un eau, dans une sauce ou un muffin. L'aliment qu'on ingère, dans lequel il se trouve naturellement ou artificiellement, influence notre perception de l'arôme, de même que le mode de fabrication de l'aliment. Pour créer une saveur, poursuit l'aromaticienne, il faut savoir dans quoi elle sera digérée. On n'utilise pas le même arôme dans un yogourt que dans un bonbon. Contrairement au yogourt, le bonbon est cuit. On a donc besoin de molécules plus résistantes à la chaleur, puisqu'une partie de cet arôme s'évapore à la cuisson. Pour qu'il en reste en fin de fabrication, il faut en mettre une plus grande quantité au départ. Les arômes, ce ne sont pas seulement des molécules qui donnent l'odeur artificielle à nos bonbons et qui ont du mal à se souvenir de leur origine. Les arômes, c'est aussi ce qu'on sent en soulevant avec curiosité le couvercle d'une sauce bolognaise en train de mijoter. On en utilise tous les jours en cuisine, même à la maison, poivre, muscade, essence de vanille. Ils peuvent être d'origine animale, comme le castoreum, une huile issue des glandes anales du castor qui sert en parfumerie et entre en combinaison avec la saveur de vanille ou végétales comme le menthol ou la carvone, deux des molécules odorantes de la menthe. Ils se présentent sous forme liquide ou solide et on les ajoute en proportion ajustée une fois qu'on a terminé la bonne recette. Je secoue devant mon nez dans la manière d'un éventail un petit buvard que Manuela a trempé dans l'un des milliers d'arômes de son incroyable librairie, une série de bouteilles aux couleurs multiples et aux odeurs infinies disposées côte à côte sur des tablettes en croisillon. Une vraie caverne d'Ali Baba. L'odeur forte me transperce à nouveau. Ma bouche s'emplit de salive, j'ai 10 ans. Je suce un bonbon sûr et doux, et dur aussi, rouge vif. Je me concentre. C'est quelque chose de sucré et d'acide. Un fruit? Mais lequel? Pêche? Fais une voix. Oui, c'est exactement cela. Une effluve de pêche sans le fruit. Celui que je préférais dans mes yogourts. Mon cerveau libère à nouveau ses souvenirs. Et je continue cet article dans quelques instants.
Catherine, je vais vous parler maintenant des jeux vidéo en ligne quand les filles deviennent la cible. 40% des adeptes de jeux vidéo environ sont des femmes. En ligne, elles font pourtant face aux moqueries et parfois à des menaces très agressives. Alexandre Vigneault nous en parle dans la Presse Plus, édition du 21 janvier 2018. Toxique. L'adjectif est abondamment utilisé pour décrire le climat entourant Overwatch, jeu vidéo où deux équipes armées jusqu'aux dents tentent de s'anéantir l'une l'autre. Le mot n'est pas trop fort. Les affrontements en ligne peuvent donner lieu à des tirs groupés d'insultes et de railleries, voire de menaces. Pas entre adversaires, entre coéquipiers. Et si tous les joueurs sont susceptibles d'être attaqués, un groupe est particulièrement visé. Les joueuses. Ce ne sont pas de très beaux mots, résume Mélissa Beaubien, 28 ans, au sujet de ce à quoi elle a fait face. YouTube est moins évasif. La plateforme répertorie quantité de vidéos qui donnent à entendre le harcèlement enduré par les joueuses. Des vulgarités qu'il serait déplacé d'écrire ici, oui, mais aussi des commentaires d'une misogynie ou d'une violence extrême allant de « tu es une fille » « As-tu même le droit d'avoir une opinion? Ah, je vais la violer. » Noémie Bolduc, 31 ans, n'est pas étonnée. Elle a aussi été témoin de menaces de viol et de mort en s'adonnant à des jeux de rôle en ligne comme World of Warcraft et Diablo. C'est effrayant ce qui peut être dit. « Tu finis par ne plus les voir tellement il y en a », ajoute-t-elle. Ces avatars féminins ont même subi des attouchements et du harcèlement sexuel. Comme ça peut se produire dans la rue ou dans le métro. C'est un personnage de jeu vidéo, le dessin n'est même pas réaliste. Tu peux te dire que tu ne fais pas de mal à personne, parce que tu ne la vois pas et que le personnage n'a pas d'expression, réfléchit-elle. Je trouve ça dérangeant. C'est comme si ça permettait aux gens de penser que ce genre de comportement est acceptable. Elle croit que la seule façon pour elle d'avoir la paix sera d'incarner des personnages masculins. Ce manque de respect envers les joueuses ne date pas d'hier. Mia Consalvo, professeure de communication à l'Université Concordia, constate qu'on en parle davantage depuis que le jeu se déroule en ligne, où les participants peuvent être jumelés avec des inconnus. Je ne dis pas que ça se produit tous les jours, mais le fait que la plupart des femmes en ont fait l'expérience est révélateur, observe-t-elle. Ça nous dérange toutes, dit Noémie Bolduc au nom de ses amies joueuses et elle. L'omniprésence de ce harcèlement sexuel en fait un sujet dans un forum de discussion consacré au jeu Overwatch. Là aussi, la misogynie s'exprime sans gêne et les discussions déraillent souvent. Il y a toujours un participant pour souligner que tous les joueurs sont susceptibles de subir du harcèlement, pas seulement les femmes. Mia Consalvo le confirme. Mélissa Beaubien et son amie Véronique Bouffard, 25 ans, sa coéquipière, au sein des Sailor Scouts, équipe féminine qui participe à des compétitions d'Overwatch, le constate aussi. Aucune d'entre elles ne trouve que c'est une bonne raison. L'idée ce n'est pas que les gens reçoivent ce genre de commentaires de manière égale. C'est qu'ils n'en reçoivent pas, point, tranche d'ailleurs Noémie Bolduc. Overwatch, Counter-Strike ou League of Legends, qui comptent parmi les univers de jeux problématiques, ont en commun de permettre aux joueurs de se parler pour coordonner leurs attaques. Trahis, si on peut pas dire, par le timbre de leur voix, les joueuses risquent de devenir des cibles. Il y a des filles qui n'osent plus parler à cause de ça, affirme Véronique Bouffard. Ce n'est pas en arrêtant de parler que le problème va se régler, juge toutefois sa collègue Mélissa Beaubien. Changer les choses. Noémie Bolduc juge que le harcèlement subi par les joueuses est tel que les entreprises de jeux vidéo ne peuvent pas en être conscientes. Elle doute qu'elle fasse le maximum pour changer les choses. Mia Consalvo explique que plusieurs développeurs ont mis en place des systèmes permettant de dénoncer les joueurs au comportement déplacé. Le défi, c'est de faire sentir aux gens que leur dénonciation mènent à quelque chose, dit-elle. Noémie Bolduc dit avoir déjà fait bannir des joueurs pour des propos déplacés. Mais les sanctions sont loin d'être automatiques. Il y a une incohérence, et cette incohérence fait en sorte que les harceleurs ne prennent pas les menaces au sérieux. Après combien de dénonciations c'est valide? Se demande pour sa part Mélissa Beaubien, montrant bien que le processus reste obscur. Blizzard, entreprise qui a notamment conçu Overwatch, n'a pas répondu à la demande d'entrevue de la presse. Jeff Kaplan, principal architecte du jeu, a toutefois publié en septembre dernier une vidéo où il parle d'une augmentation des mauvais comportements et de la toxicité de l'environnement du jeu. Il ne parle pas de harcèlement sexuel, mais rappelle l'existence du système de dénonciation qui a amené, selon lui, à des actions contre près de 500 000 comptes, le plus souvent à la suite d'une plainte d'un joueur. Les filles de Sailor Scouts estiment qu'il est nécessaire d'assainir l'environnement de jeu, faire preuve de maîtrise de soi et éviter la violence physique et verbale est d'ailleurs inscrit dans la charte de la Fédération québécoise de sport électronique. Les efforts doivent aussi venir de la communauté des joueurs. Si tout le monde prenait la défense de celles et ceux qui se font publiquement attaquer, plutôt que de demeurer silencieux, signale Gabriel Trépanier-Jaudouin, la situation pourrait peut-être changer. Jeff Kaplan a beau en appeler au bon sens des joueurs, aucune des joueuses interviewées ne croit que l'autorégulation suffira. Ça prend un changement de culture, croit Noémie Bolduc. Alors un peu plus tard, je vous parlerai d'une équipe 100% féminine qui se réunit sur une base régulière, ici même.
Alors dans ce ping-pong d'articles, je poursuis le mien qui était sur les métiers créateurs de saveurs. Labyrinthe mémésique. La mémoire olfactive œuvre à notre insu. Pour le sommelier et créateur d'aromaties olfactives et gustatives François Chartier, elle porte en elle un bagage de souvenirs et d'émotions. C'est avec elle que jouent les chefs quand ils réinventent les classiques pour mieux nous surprendre. Un pina colada à la barbe à papa mélange le plaisir adulte du cocktail aux souvenirs gourmands de l'enfant qui vit en nous. Le but est de surprendre le cerveau, soutient l'auteur de Papilles et molécules, un des premiers livres à avoir éveillé le grand public à la composition moléculaire des arômes naturels présents dans les aliments et à avoir proposé une grille pour en jouer avec curiosité et gourmandise. Encore en gastronomie, on veut sortir des ingrédients de leur cadre habituel afin de désigner de nouvelles saveurs. Aujourd'hui, on se rend compte que les arômes sont plus importants pour le goût d'un aliment que les goûts de base, qu'on n'aperçoit qu'avec la langue. Les chefs, mais aussi les industries, jouent énormément avec les arômes et les parfums. Cela leur permet de diversifier leur clientèle. C'est une nouvelle voie de créativité. Ce n'était pas le cas dans les années 1980, une époque où on imaginait nourrir l'humanité future à coups de pilules aussi colorées qu'insipides. le cauchemar des aromaticiens et des amateurs de bonne chère. Il y a 30 ans, les Québécois avaient peur d'essayer de nouveaux produits, se souvient François Chartier. Il restait très fidèle aux aliments qu'il connaissait. Aujourd'hui, le public veut découvrir et être surpris. Catherine de Gongre, créatrice de mélanges d'épices, profite également de cette ouverture d'esprit et de cette curiosité gustative des Québécois. Sa petite entreprise, La Pincée, vise à susciter la créativité de ses clients en cuisine à l'aide de sel et d'épices, de couleurs et d'odeurs. Dans son atelier de la petite patrie, une longue table en bois trône, prête à recevoir les convives. Mais avant de s'asseoir, il faut sentir. Tranquillement, la cuisinière sort un pot de sa collection de mélanges d'épices. Elle le retourne et le secoue 2-3 fois, mélangeant les grains. Cristaux de sel et poivre moulu chantent contre le couvercle métallique. Puis elle l'ouvre et me le tend. La pincée classique, grise et marine, relève une pointe de poivre. Celle de mer et celle guérande se combinent au grand plaisir de mes yeux. Vive le temps de la pincée ambrée. Sans sel, me dit-elle. J'observe le jaune intense du curcuma, puis je soumets le tout à mes narines. Je m'essaie en deviner quelques ingrédients. Muscade? Catherine s'amuse de ma mémoire infidèle. Il n'y a pas de muscade, mais vous n'êtes pas la seule à le penser. L'association avec les autres épices suscite souvent cette image. Le lieu plaît à mes sens, le goût et l'odorat, bien sûr, mais aussi la vue, l'ouïe et le toucher. Le kaléidoscope coloré des 11 mélanges d'épices, le jeu des grains aux moutures variées. Les épices brutes, la matière première m'inspire, confie l'artiste. Je suis une madame poivre. Quand je le jumelle avec des épices et des herbes, c'est fabuleux. J'aime imaginer Catherine comme une peintre devant sa toile, jouant de ses doigts comme de pinceau une énorme palette odorante et colorée à portée de main. Quand je crée, je commence par faire différentes moutures de mes ingrédients. Puis je sens les épices, une à la fois, et j'imagine la composition de mon mélange. Je fais beaucoup de pauses. Je tourne souvent autour d'un élément central. Quand j'associe rapidement avec l'un second élément pour créer un duo. Ce n'est que par la suite que j'ajoute les subtilités. Enfin, je goûte pour trouver l'équilibre des saveurs entre la mer, le doux et le piquant. Je porte beaucoup d'attention à tout ce qui se passe en bouche. Catherine crée à son rythme. Au contraire, chez Kerry, la vitesse est clé. Les clientes d'entreprise, biscuiteries, laiteries, créateurs de plats préparés, doivent continuellement surprendre le consommateur et lui plaire. Les saveurs s'avèrent l'indispensable allié dans cette quête. Pour François Chartier, les arômes sont l'avenir de la cuisine, que ce soit celle d'un grand chef, d'une entreprise ou tout simplement la vôtre. Son livre « Papilles et molécules » a ouvert la voie à une nouvelle discipline, la cuisine moléculaire, qui n'est en fait que la compréhension profonde de la composition de nos aliments. Jouer des arômes, c'est agencer les molécules pour créer de meilleures saveurs. C'est combiner les fragrances pour mettre en valeur l'aliment. Tout cela au service du goût.
Je rattrape la balle, Catherine. Cette fois, je continue avec les jeux vidéo et les femmes. Une équipe 100% féminine. Elles se sont rencontrées lors des vendredis Overwatch tenus au Meltdown. C'est un repère de gameuses qui est situé rue Saint-Denis, dans le quartier latin. L'endroit a une ambiance amicale, dit Véronique Bouffard, 25 ans. On était très peu de femmes là-bas, précise-t-elle toutefois. On s'est dit qu'on pourrait essayer de faire un tournoi avec une équipe complètement féminine. Le projet s'est concrétisé. L'équipe s'appelle Sailor Scouts et compte 6 joueuses régulières et 2 remplaçantes. Véronique raconte avoir eu une envie de fonder une équipe de filles, entre autres parce que lorsqu'elle jouait avec des gars, elle était souvent confinée à un rôle de soutien très cliché pour les joueuses. Une guérisseuse baptisée Merci. Bien des femmes s'intéressent à ces rôles et c'est correct. Ça devient un problème quand c'est imposé, relève toutefois la jeune femme qui travaille comme développeuse de communauté chez Ubisoft. Les joueuses souffrent encore de nombreux préjugés et stéréotypes dans la culture vidéoludique, dont celui de la fake gamer girl qui joue aux jeux vidéo pour faire plaisir à son copain ou pour attirer l'attention, signale Gabrielle Trépanier-Jobin, professeur à l'École des médias de l'UQAM. On doute plus souvent des compétences des joueuses et de l'intérêt qu'elles portent au jeu. dit-elle. Véronique ne voulait pas se faire imposer de limites. Elle ne se voyait pas évoluer comme joueuse dans le genre de rôle qu'on lui laissait. Son désir à elle, c'était de monter au front et d'incarner un personnage appelé Tank. « Je voulais le rôle qui fonce », dit la joueuse. Ce qu'elle aime d'Overwatch, populaire jeu mettant aux prises deux bandes armées, la stratégie et le jeu d'équipe. Sailor Scouts s'y adonne d'ailleurs avec le plus grand sérieux. Sa bande se rejoint en ligne pour au minimum 3 blocs de 3 heures d'entraînement par semaine. Ce qui a d'ailleurs attiré Mélissa Beaubien, 28 ans, qui cherchait à se joindre à une équipe motivée et organisée. Performer à Overwatch demande beaucoup d'investissement de temps, insiste Véronique. Ce jeu évolue beaucoup, les mises à jour sont très fréquentes. Les stratégies privilégiées peuvent être complètement renversées en l'espace de 2 semaines, soutiennent les deux joueuses, en raison de modifications apportées à l'une ou l'autre des personnages. En tentant de s'accomplir comme joueuse, et peut-être un jour gagner leur vie en remportant des compétitions, les filles de Sailor Scouts ont un autre objectif: promouvoir la présence des femmes dans l'univers du jeu vidéo. Elles souhaitent que les filles osent. On veut aider d'autres jeunes filles. J'aurais été contente d'avoir un groupe comme ça avec qui j'aurais pu échanger quand j'étais plus jeune, poursuit Mélissa Beaubien. Les femmes représentent 40% des adeptes de jeux vidéo et sont globalement plus nombreuses à y jouer que les garçons de moins de 18 ans, selon le plus récent rapport de l'Entertainment Software Association. Mia Consalvo, professeure de communication à l'Université Concordia, ajoute que le portrait de l'industrie elle-même a beaucoup changé ces 10 dernières années. On voit de plus en plus de femmes, pas seulement en production, mais dans les studios, et des femmes qui lancent leur propre studio, dit-elle, en citant notamment la boîte Kickfox Games et Pixels, un incubateur de jeux qui s'adresse aux femmes. Alexandre Vigneault dans la Presse Plus, qui nous parle de Sailor Scouts et autres groupes qui s'adonnent aux jeux vidéo, mais évidemment des groupes de femmes. Chaque année, il y a plus de 4000 entreprises technologiques qui se réunissent au Consumer Electronics Show, c'est à Las Vegas, et qui en font, présentent leurs nouveaux gadgets. Evelyne Audet s'est rendue à ce show-là et elle a répertorié un certain nombre de gadgets qui l'intéressaient. Je vous en parle de quelques-uns. D'abord, ranger sa télévision en l'enroulant. LG Display a lancé un des articles les plus convoités, un écran de télévision qui peut être enroulé. La technologie n'utilise pas de rétroéclairage, ce qui permet la fabrication d'un écran beaucoup plus mince, de telle sorte que l'écran peut être enroulé, mis dans un boîtier et rattaché pour un rangement complet après utilisation. Il y a aussi une télévision qui est grande comme un mur. Alors, The Wall, on l'a appelé The Wall.
Peut-être alors, français, donc on pourrait le garder pour la semaine
Samsung
prochaine.
C'est Samsung qui veut en faire la promotion.
Alors, ça sera pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.
Bonne semaine.